Vous avez maintenant l'occasion de poser vos questions aux membres du panel. Vous avez aussi peut-être votre propre histoire à nous raconter au sujet de ce que vous avez fait, vos réussites en matière de négociation collective. Écoutez, on y va tout de suite avec les questions qu'on sort au micro 2, conformément au statut. Nous, de Edmonton, nous allons remettre 785 $ pour nos membres. Merci, consoeur. Une consoeur au micro 4. Bonjour. C'est maintenant la tournée pour les dons. Oui, oui. Mais écoutez, si on pouvait ne pas parler pendant la période de questions, ça serait bien. J'ai une question à Mme Sylvie Goyer. Moi, je viens du 3912 à Halifax. On représente trois secteurs d'université, Dalhousie, Mont-Saint-Vincent et l'Université St. Mary's. Nous représentons les membres de la faculté à temps partiel et les aides à l'étude. Nous, on a réussi à faire grimper nos salaires parce que lorsque nous avons commencé, lors de notre première convention collective en 1998, c'était très, très bas les salaires. On a plus que doublé nos salaires depuis 1998. Mais on a eu beaucoup de difficultés toutefois à obtenir des avantages sociaux. Et en fait, ils ne veulent même pas nous parler d'un régime de retraite ou d'un programme de REER. Et avec ce ralentissement économique, nous avons l'impression, là, au moment où on se prépare pour cette prochaine ronde de négociation, que c'est probablement le moment de viser une amélioration des avantages sociaux, congés de maternité, tout ça. Alors, pourriez-vous nous conseiller, afin qu'on sache exactement comment vous avez obtenu une si belle réussite?
J'espère pouvoir répondre correctement à votre question, mais je pense que j'ai des collègues ici qui vont être mieux habilités que moi pour répondre en matière de négociation, de convention collective. Fait que peut-être après, je leur passerai le micro. Mon Dieu, comment on s'y est pris? Je pense qu'il fallait d'abord bien maîtriser notre dossier d'équité salariale, puis il a fallu aussi convaincre l'ensemble des membres du bien fondé de nos revendications. Alors là-dessus, ça a pris des gens aussi qui étaient constants sur le dossier, qui à chaque fois venaient replanter le clou et convaincre les autres d'embarquer finalement pour qu'on soit tout ensemble unis, même si ça a duré pendant des années. Là, tantôt, on nous demandait en 10 minutes de résumer 15 ans de lutte. Je vous ai dit que le terme finalement ou le mot-clé, ça a été pas à pas. Il faut aller en chercher un peu, puis après ça, on va en gruger encore un peu, puis après ça, on continue comme ça. Pour ce qui est des avantages sociaux de la convention collective ou même du statut précaire, là, des statuts précaires, peut-être demander s'il y a des collègues qui sont mieux disposés à répondre sur ces questions-là.
Je pourrais, mais j'aimerais peut-être juste vous répétiez la question par rapport au statut précaire, là, pour que j'essaie d'être précise sur la réponse, si je peux répondre.
Oui, les membres de faculté d'enseignement temporaire, ils travaillent à contrat d'un cours à l'autre et nos assistants sont habituellement pendant un an à l'Université de Dalhousie. Parfois, ils les gardent pendant 2 ans et c'est même difficile de se rendre compte qu'ils sont membres du syndicat. Alors, pour mettre sur pied toutes sortes de stratégies solides pour la grève ou pour des négociations, ça devient problématique pour nous. En tant qu'adjoints, ils ont certains avantages, mais pas le personnel enseignant temporaire dans les facultés. Il y a très peu de possibilités d'avoir des congés au travail. Ils n'ont pas de régime de retraite, pratiquement aucun avantage social. Ils ont un petit peu d'argent accordé au développement professionnel et c'est ça.
Si je peux peut-être vous parler de notre expérience. Ça répondra peut-être pas à votre question, mais je vais quand même vous dire comment nous, on a amené l'ensemble de nos membres à être solidaires par rapport aux conditions de travail des statuts précaires. Premièrement, il faut dire qu'on a près de 50 % de nos membres dans nos rangs qui sont à statut précaire. Donc, si on regarde ça concrètement, là, sur 8 000 employés, il y en a près de 4 000. Donc, déjà là, on avait une force très intéressante. Le fait d'être à la ville de Montréal aussi, on est très près l'un de l'autre. Parfois, on se compare avec les employés du gouvernement parce qu'il y a certaines sections, comme Emploi Québec, par exemple, où au gouvernement du Québec, ils ont de la difficulté à solidariser leurs membres, à les faire sortir en grève parce qu'ils sont loin, sont dans des régions, sont un peu dispersés. Nous, à Montréal, on a la chance, c'est sûr, d'être assez près et de pouvoir rassembler nos membres quand on a besoin de les sensibiliser. On parlait là de la journée du 8 mars, par exemple. La journée du 8 mars, c'est des femmes qui l'organisent. Il y a beaucoup de femmes qui mettent la main à la pâte à Montréal, chez nos membres. On a des artistes, là, des humoristes, des peintres, bon, toutes les femmes qui ont des talents. On met ces talents-là en commun et on organise ensemble la journée du 8 mars. C'est sûr qu'un de nos objectifs, c'est de solidariser puis de profiter de ce moment-là pour parler des avancées qu'on va faire dans nos prochaines conventions ou dans le dossier d'équité ou dans d'autres dossiers. Donc, pour nous, ça fait partie des stratégies pour le moment. Quand on arrive à table de négo, on a un projet de convention qui dit exactement ce que nos membres veulent. Et on a un journal aussi qui nous permet de sensibiliser les autres à ces demandes-là. Donc, c'est vraiment, je pense, un travail de longue haleine là, qui se fait pas à court terme, mais qu'on a comme objectif déjà depuis, en tout cas, nous, on est au pouvoir depuis près de 4 ans. Et ça fait depuis le début de notre mandat qu'on priorise ces objectifs-là et qu'on travaille là-dessus. C'est à peu près ce que je pourrais vous dire là, pour notre expérience à Montréal. C'est ce qui nous amène à, quand on est prête à faire sortir nos membres, c'est sûr qu'on a beaucoup de travail à faire. Il faut aller les rencontrer, il faut faire la tournée des arrondissements, mais il y a déjà une sensibilisation qui est faite, puis je vous dirai pas que c'est facile, là, mais je peux vous dire que ça fonctionne.
Sister at mic 3.
Micro 3. Carole Kenzie. Les employés des hôpitaux, local 6015. J'avais envie de parler, mais quand j'ai entendu Shelley parler, ça m'a vraiment émue. J'aimerais vous parler de ce qui s'est passé dans notre section locale en 2006. Nous, on représente 4300 employés des hôpitaux de la Colombie-Britannique. Nous avons réussi à négocier un fonds d'éducation de 5 millions de dollars. Je vous le dis, ça a changé la vie de tellement de nos membres. Les gens peuvent suivre des cours à long terme ou à court terme. Si vous êtes dans le bureau, vous pouvez parfois prendre un cours d'informatique d'une semaine pour mieux maîtriser, disons, le Excel, et vous serez payé pour ça. Si vous travaillez à l'entretien, vous voulez devenir une aide infirmière, vous pouvez faire application. Non seulement ils paient tous les frais de vos études, mais ils nous remettent quoi? C'est quoi, 1000 $? Pardon, c'est 100 $ par jour qui vous est accordé pendant vos études. Alors, 100 $ par jour pour que vous subissiez pas d'effets négatifs pendant que vous poursuivez ces études. Vous pouvez donc vous améliorer. Il n'y a pas de meilleure façon pour les femmes que d'avoir accès à l'éducation pour améliorer leur situation. Et voilà ce que notre syndicat a donné aux femmes du SEH. Et peut-être que la prochaine ronde de négociation, on obtiendra 10 millions plutôt que 5 millions. Merci, Consœur. Micro 2. Jackie Dwyer, mon nom. 2204. Je viens de l'Est de l'Ontario, service des garderies. Merci à toutes ces femmes qui ont fait ces présentations. C'était vraiment très motivant de vous entendre. Et Il y a quelque chose qui me touche de très près, ce sont les pensions, les régimes de retraite. J'ai une question pour Maria, mais j'aimerais aussi parler de différents choix de pensions qui sont disponibles aux membres du SCFP. Maria, vous avez parlé de l'obtention de pensions, vous voulez travailler pour obtenir que vos employés temporaires aient accès à des pensions, c'est parce qu'elles n'en ont pas présentement, ou est-ce que j'ai... Vous parlez de membres à temps plein, non. Vous avez dit que vous avez réussi à obtenir pour les employés à temps partiel permanent des avantages liés à la pension. Est-ce que vous... Oui, d'après notre programme, dans une période de 2 ans, ils doivent gagner un tiers du WPE et ensuite ils ont accès à ça. Mais les temps partiels n'avaient pas droit à ça parce que leur contrat prenait fin à la fin de chaque saison. Alors, ces mois qui travaillaient chez nous n'étaient pas tenus en compte. Alors, merci de cette précision. Et j'aimerais dire à tout le monde ici, si vous n'êtes pas au courant du programme de pension le régime de retraite multisecteur qui a été mis au point par le SCFP et le syndicat international, ça a été créé pour ces membres syndiqués qui n'ont pas accès à un régime de retraite. Plusieurs de ces membres sont des femmes. Et plusieurs travaillent dans le domaine social où on n'a pas accès à ces pensions. Alors ça, c'est un choix. Si là où vous travaillez, vous n'avez pas de régime de retraite, le RRMS est une alternative aux membres du SCFP. C'est en fait quelque chose d'extraordinaire. Si vous n'avez pas de régime de retraite, je vous le répète, moi, je suis en garderie depuis 25 ans, c'est là que je travaille, et je n'ai pas eu de régime de retraite pendant toutes ces années. Alors, lorsque ce régime de retraite multisecteur a vu jour en 2002, c'était la première fois que les travailleuses de mon secteur avaient accès à un régime de retraite. Écoutez, ça faisait près de 20 ans qu'on attendait ça, parce que déjà en 1986, on cherchait un tel régime de retraite. Alors vraiment, j'ai plein de gratitude pour le SCFP, le syndicat international, qui nous ont permis d'avoir accès à ça. Mais voilà, j'en profite pour vous en parler. Transmettez ça à vos sections locales, aux gens de vos régions. Si les gens n'ont pas accès à ce régime de retraite, informez-vous. On a un site, d'ailleurs. Alors, bon, donne celui en anglais. Là, c'est le www.mspp, comme papa. Papa. Alors, ça a été lancé en 2002. Et nous avons présentement 6 000 membres qui sont inscrits à ce régime de retraite multisecteur. Et il y a des nouveaux membres qui se joignent à ce régime-là tous les mois. Et si vous voulez, vous pouvez venir me rencontrer pendant le congrès. Ça va me faire plaisir de vous donner de plus amples détails. Merci. Maintenant, on sera au micro 4, Souli Torillo, 1153, de Winnipeg, service à l'enfance, à la famille. Présentement, nous négocions notre convention collective. L'employeur veut offrir des avantages seulement aux employés permanents, mais dans la loi de la province, c'est interdit. Alors, il faut offrir le régime de retraite à tout le monde, pas seulement à une seule catégorie. Mais eux, ils nous ont dit, non, on va offrir le régime de retraite seulement aux permanents. Mais nous, on a dit, c'est contre la loi. Est-ce que vous voulez enfreindre votre loi? Et là, ils ont retiré leur offre. Ça fait ils ont pris 2 mois pour nous répondre. On n'a pas encore la réponse. On attend toujours. Mais moi, j'ai le sentiment... Vous savez, ça fait tellement longtemps qu'on attend pour obtenir une pension. Et c'est un paiement différé. Vous savez, si vous n'avez pas de pension ou une mauvaise pension, vous allez devenir plus pauvre que les plus démunis. Et en tant que travailleuse, en tant que femme, on sait que souvent, on a des salaires faibles. Alors, imaginez-vous, si on n'a pas de pension à la retraite, que ferons-nous? Alors, comment... J'aimerais ça qu'on nous aide à obtenir une pension cette année. Et aussi, on n'a pas de programme de développement professionnel. Chez mon employeur, on vous embauche pour être une travailleuse de soutien à la petite enfance. Vous vous occupez toujours le même poste. On n'a pas droit à des promotions, quoi que ce soit. Et lorsqu'on a besoin d'un congé d'absence pour aller suivre des cours, c'est toujours refusé. À moins que ce soit commandité par le syndicat, qu'on puisse venir, par exemple, à des congrès ou d'autres cours. À part ça, on n'a pas droit d'aller suivre des cours. Alors, nous aussi, on aimerait savoir un fonds comme de 5 millions ou autre pour qu'on puisse profiter du développement professionnel dans notre milieu de travail. Alors, j'ai besoin de conseils, de savoir comment procéder pour obtenir ce que l'on veut obtenir. Et je vous remercie à l'avance de toute aide que vous pourriez me fournir. Donc, comme ça, ce que je vous suggère, c'est de parler à madame là, qui vient de parler de ce régime de retraite multisecteur. Ça, c'est très important. Et je ne sais pas s'il y a des membres du panel qui aimeraient répondre. Bien sûr, c'est une vaste question. Et pendant les ateliers, justement, on va vous aider à élaborer des stratégies. Mais je ne sais pas là, s'il y a déjà des membres du panel qui aimeraient dire quelque chose. Alors, je suis militante depuis de nombreuses années. Alors, c'est fantastique de voir qu'on mette l'accent sur les régimes de retraite. Alors, oui, votre pension, ça va vous servir de c'est un votre salaire quand vous serez plus âgé. Voilà pourquoi il faut regrouper tous vos membres pour qu'elles comprennent bien que la pension, ça fait partie de votre salaire, de votre rémunération. C'est en fait de l'argent qui est mis de côté pour vous. Pour voir vos besoins quand vous serez plus âgé. Si les membres prenaient cette question-là de façon aussi sérieuse qu'elles ne le font pour leur salaire actuel, c'est évident que tous les membres du SFP auraient accès à un régime de retraite. Ma suggestion, c'est de n'arrêtez pas de parler de pension, de régime de retraite. Répétez sans relâche ce message aux oreilles de vos membres et rappelez-leur l'importance de cette question.
So, I'm just rotating.
Alors, donc, je passe d'un micro à l'autre. Micro numéro 3, consoeur. Bonjour, c'est Val Vinson, section d'accueil 2638. Secteur des services sociaux et travailler dans un hôpital. J'ai des salaires très faibles et je n'ai pas de régime de retraite. Mais je veux dire quelque chose de positif. À la dernière ronde de négociation, on nous a enlevé de nos groupes de négociation. On a regroupé 13 syndicats ensemble à la table et on a passé le plus clair de notre temps à trouver une bonne place à la table pour tirer la couverture de notre bord. De ce côté-ci, le gouvernement ne peut plus nous faire la même chose parce que les membres travaillent de concertation et nous avons préparé cette ronde de négociation. Le mois de mars, c'est le mois des services sociaux et nous avons engagé toutes les municipalités pour faire une déclaration comme quoi le mois de mars, c'est le mois des services sociaux. Le 16 mars, à Victoria, on a la marche de 5 km pour les services sociaux à Victoria. Alors, donc, c'est une annonce spéciale. Alors, je vous remercie de m'avoir écouté. Mais, plus sérieusement, nous-mêmes, nous avons une force incroyable. Et nous avons eu le rêve d'une coalition syndicale. Moi, Michael Lanier, est-ce qu'il est là, Michael Lanier, du CFP? Et le BCGU en Colombie-Britannique. Les syndicats collaborent depuis la signature de la dernière convention collective qui nous a vraiment fourrés. On travaille ensemble afin de rejoindre tous nos membres. Et quand on va débrayer, parce que nous allons débrayer, on n'acceptera plus une autre défaite comme ça. C'est fini. Nous sommes solidaires et unis. c'est parce que les membres se sont unis et nous avons décidé que nous, les travailleuses des services sociaux, nous méritons plus et nous, que nous pourrons apporter des choses à la table de négociation. Ça, c'est nos membres. Ne pensez pas que vous n'avez pas de puissance. Nous avons de la puissance et nous sommes puissants. Merci. Micro numéro 1. Shnaz Motani, Université de la Colombie-Britannique. L'histoire de ma consoeur Sylvie Goyer m'a inspiré.
D'abord pour vous féliciter des victoires que vous avez obtenues sur votre lutte, dans votre lutte pour l'équité des salaires. Je voudrais aussi que vous me parliez un petit peu de la prochaine étape que vous entamez sur cette lutte-là et les éléments de cette étape pour les salaires, pour l'équité des salaires depuis les années, vous m'avez dit 2006, n'est-ce pas? 2006 à maintenant.
On a réglé par une plainte la période 1996-2001. Maintenant, depuis 2001, on entreprend une démarche suivant ce qui est prévu à la loi sur l'équité salariale qu'on a ici au Québec. Alors, on est actuellement dans ce processus-là qui consiste à évaluer les emplois féminins et les emplois masculins et ensuite à comparer leur rémunération pour atteindre l'objectif à travail équivalent, salaire égal. La loi prévoit différentes étapes où on doit aller devant nos membres aussi, devant les personnes salariées. On fait partie d'un comité avec l'employeur, un comité conjoint, et on doit, à deux étapes dans la démarche, rendre des comptes, si vous voulez, aux personnes salariées. On a rempli la moitié du contrat, si vous voulez. On est en train de terminer. Mais c'est certain qu'on est privilégié au Québec d'avoir cette loi-là. Parce que vous l'avez vu avant, ça a été un combat devant les tribunaux à tous les instants. Dans le reste du Canada, il n'y a pas ce droit-là d'aller devant le tribunal par le gouvernement Harper est très menacé. Il veut comme engager une espèce de ronde de négociation entre les syndicats puis les patrons pour l'équité salariale, mais avec aucun recours, finalement, si ça ne fonctionne pas. Alors, pour moi, c'est très mauvais. On est privilégié au Québec, oui. On a vu que les recours aux tribunaux, c'était très long, c'était coûteux, ça nous faisait dépenser une énergie folle. Là, on a une loi, bien qu'elle ne soit pas parfaite. Je pense qu'on va arriver à quelque chose, on a bien avancé, mais après, est-ce qu'on va pouvoir le garder? Je pense que dans les dossiers féminins, c'est un peu ça, la crainte qu'on a, c'est qu'on fait des gains, puis tout d'un coup, flou, la porte se ferme. Puis là, il faut se garder le pied dedans là, pour être sûr de ne pas perdre. Puis c'est vrai dans nos conditions de travail, c'est vrai dans le régime de rente, et c'est vrai dans tous les autres sujets qu'on a abordés. Puis ça, c'est juste par solidarité qu'on va l'avoir, qu'on va maintenir. Puis on n'est pas des personnes capricieuses. On est la moitié de la société, puis on veut être traité comme tel. Je pense qu'il ne faut pas lâcher. Il faut dénoncer le gouvernement Harper. Il faut dénoncer certains gouvernements provinciaux aussi qui ont bien de la difficulté à voir les hommes et les femmes sur le même pied d'égalité.
Microphone 2.
Micro numéro 2. Merci. Alex Youngberg de la section légale 3911, Bibliothèque municipale de Vancouver. Merci au SFP national et à ce groupe de femmes extraordinaires qui soulèvent tant d'enjeux importants pour nous. Je pourrais poser une question à tous les participants, mais j'ai deux questions. Aussi, je veux parler de Grand Forks, une petite section légale de 5 travailleurs de bibliothèque en Colombie-Britannique. Ma section locale de 800 a débrayé pour l'égalité salariale. Imaginez la difficulté pour une section locale de 5 travailleurs à l'intérieur de la Colombie-Britannique qui veulent garder leurs avantages sociaux en même temps. On peut le dire ici, mais écoutez, il y a des membres du conseil d'administration des bibliothèques qui détestent les femmes. C'est la réalité. Ils veulent se débarrasser maintenant de ce conseil d'administration et le conseil municipal appuie les travailleuses. Dans ces négociations avec ces petites sections locales, dans les bibliothèques chez nous, c'est que chaque conseil d'administration qu'on passe son contrat au contrat de notre section locale. Alors, s'il y a une coupure dans une bibliothèque, on va voir le même effort dans une autre bibliothèque. Donc, il faut être solidaire, il faut être uni, il faut appuyer ces petites sections locales. 5 personnes sont vulnérables, mais on a 600 000 membres au CFP, ce qui donne à ces 5 membres une force inouïe. En réalité, je voulais parler de la violence au travail et la question de la diversité. Mais pour ce qui est de notre lutte pour l'égalité salariale, eh bien, on avait 14 postes qui ont eu une promotion, un avancement. On n'a pas eu le plan que nous voulions, le plan GIA, mais nous avons mis des efforts dans la lutte des élections municipales et on a 9 conseillers municipaux élus grâce à nos efforts. 9 sur 10 sont des amis du syndicalisme. 9 sur 10 à Vancouver, encore plus. Dans les conseils d'administration des municipalités, des bibliothèques, les membres sont nommés par le gouvernement municipal. Donc, on a un équilibre différent maintenant. On a un conseil d'administration de la bibliothèque qui est l'ami des syndicats. Alors, 2 jours après l'élection municipale, on a parlé de l'évaluation d'emploi. Ce n'était pas une nouvelle idée pour lui. C'est une idée qu'il a eue parce que on a eu gain de cause dans les élections municipales. Alors donc, ne votez pas pour Stephen Harper, ne votez pas pour Gordon Campbell chez nous non plus. Parce que ces gars-là ne nous aiment pas. Ce sont des machosistes, pardon. Alors voilà la bonne nouvelle. Et aussi, on a une élection provinciale en Colombie-Britannique, alors vous savez où voter. Comme Monique l'a bien dit, c'est là où on trouve sa force quand on change les lois touchant l'équité salariale. On peut faire un certain travail à la table de négociation, mais il faut faire un travail légal et juridique aussi. Merci à l'Ontario, merci au Québec de nous avoir emboîté le pas et de servir de bon modèle. Shelley Poitras aussi, dans sa stratégie de la main-d'œuvre représentative, nous, on a une réunion conjointe, syndicat-employeur, au sujet de la diversité. Ils veulent accepter les travailleurs de la diversité sans les normes éducatives. Ça va pour nous, mais puisque chaque côté a la possibilité de financer l'éducation, par exemple, pour des bibliothécaniciennes ou bibliothécaires ou autres, il y a des dons de 500 $ par année de part et d'autre. Nous voulons encourager les nouveaux engagés, des autochtones et des gens de la diversité, de faire de ces gens-là, de les fidéliser, soit en les rajoutant au comité, soit en leur offrant des bourses. Alors, dans votre stratégie, qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez eu ce problème? Mélanie, pour ce qui est de la violence au travail, on a 2 griefs en cause maintenant. On a un site web là-dessus. Vous parlez des problèmes des travailleurs sur le front. Ben, les travailleurs des bibliothèques partout chez nous, en Colombie-Britannique, oui, il y a de la violence au milieu du travail qui n'est pas appréciée, qui n'est pas reconnue. Ils pensent que tout est ziguidou dans les bibliothèques. Mais il y a 68 000 visiteurs à la bibliothèque municipale de Vancouver et les sans-abri trouvent abri chez nous. Il y a des gens qui nous harcèlent, il y a des gens qui nous suivent au travail, chez nous, etc. On a tous les problèmes possibles. L'employeur veut, tu dis qu'il veut respecter la vie privée des clients, il veut protéger les clients, hein, mais non pas les employés. Mais voyons, c'est fou. Nous savons que les employés des bibliothèques aiment leur clientèle. Mais l'employeur ignore nos problèmes de sécurité, de santé et de sûreté. Il y a maintenant des membres, il y a des membres du personnel où tous leurs détails sont affichés sur le site web, nom, adresse, numéro de téléphone, etc. On a demandé au conseil d'administration de changer tout ça. Et bien là, on porte notre nom maintenant. Alors les gens savent notre nom. Alors ça revient à la même chose. La sécurité au milieu du travail est très importante. Je vous remercie d'en avoir parlé. Je vais essayer de me rappeler tout ce que vous avez dit. En micro 2, les gens en micro 2 attendent depuis longtemps. Et aussi au numéro 4, il y a une personne qui est là depuis longtemps. Alors, micro 4, consoeur, en micro 4, elle est là depuis longtemps. Micro 4, consoeur. Oh, me voilà, bah, je ne savais même pas le numéro de mon micro. Saint-Jean, section locale 4400, secteur de l'éducation de Toronto. Je vais rappeler à tout le monde que lors de nos communications, lors de nos dialogues, on n'aime pas les acronymes. Alors, je vous prie de ne pas utiliser des acronymes qui, vous, sont connus, mais qui ne nous sont pas connus. Merci. Sherry Cameron, la section locale 4092, Toronto, agent d'abord Air Canada. Alors, dans un premier temps, je vous remercie de la conférence, de ces histoires qui me motivent, qui m'inspirent. Nous en avons besoin dans la division de transport aérien. Notre lutte dure depuis 16 ans maintenant pour l'équité salariale. 13 ans. Après 13 ans de la lutte, Air Canada a fait banqueroute et a demandé les protections en vertu de la loi, ce qui a mis fin à nos droits. On n'avait plus le droit de faire la grève, on n'avait plus le droit de faire quoi que ce soit. On a eu des coupures de 17% de nos salaires, les conditions de travail ont été minimisées. Il y a même un banquier de Bay Street, à la rue Saint-Jacques, qui a dit que notre lutte pour l'équité salariale ne valait rien. Et étant donné la banqueroute d'Air Canada, les autres créanciers allaient avoir quelque chose, mais nous allions recevoir zéro pour les 13 années de lutte que nous avons déjà fait, étant donné la banqueroute. Air Canada n'a plus d'argent. Ensuite, en ce qui concerne la protection pour Air Canada, Air Canada a eu beaucoup plus de temps pour payer ses dettes, surtout en ce qui concerne le régime de retraite. Maintenant, Air Canada est redevable pour un montant deux fois plus élevé. Et Air Canada dit maintenant que s'il faut payer sa dette envers notre régime de retraite, Air Canada va faire faillite à nouveau. Alors, voilà nos problèmes. Alors, je dois vous dire que sans le soutien de nous tous comme individus pour créer le CFP, on n'aurait jamais pu aller de l'avant avec nos plaintes, avec nos griefs. Alors, je suis fier d'être syndicaliste parce que c'est ça, l'esprit du syndicalisme. Micro numéro 2, Ivan Sullivan, section locale 2939, bibliothécaire ou bibliothécnicienne. Il est inspirant pour moi de venir à des conférences comme ceci, sans vous submerger de statistiques, mais j'entends les anecdotes, les histoires individuelles, ça m'inspire. Et pour la consoeur qui est agente de bord, je dois dire que l'avion qui a fait un atterrissage en détresse sur le fleuve Hudson, ça souligne l'importance du travail des agents de bord. Au-delà des stéréotypes. Quelques autres points. Il y a la violence. Moi, je travaille dans une bibliothèque. On a parlé de la violence aux mains du public. On a des postes de pornographie dans nos bibliothèques. On a même des pornographes dans nos bibliothèques. Je veux parler. Nous, les femmes, nous sommes victimes d'une autre forme de violence. Violence socialisée. Ce n'est pas nécessairement la violence physique, mais dans nos sections locales, nous voulons éviter des conflits. Et nous sommes victimes de harcèlement verbal et sinueux dans nos sections locales. Il faut que les membres le sachent. Moi, je suis membre de l'exécutif. Je suis membre de l'exécutif depuis plus de 20 ans. Et c'est un milieu de travail à prédominance féminine. Et maintenant, l'exécutif veut faire son travail, veut respecter la convention collective. Mais ce n'est pas facile. On n'a pas nécessairement l'appui de tous nos membres. Les femmes n'apprécient pas que si vous ne parlez pas à quelqu'un le matin, c'est une forme de harcèlement. Je pense qu'il faut avoir des programmes de respect au travail. C'est ça qu'il faut chez nous, par exemple. Il y a un cours offert par le CFP, et je veux féliciter ce cours. C'est les femmes qui détruisent des barrières, qui font descendre des barrières. Je ne sais pas si vous connaissez ce cours. Est-ce qu'il y a des femmes ici qui ont assisté à ce cours? Moi, oui. Et ça, c'est le genre d'information essentielle qu'on apprend. Après avoir suivi ce cours, en compagnie des femmes fantastiques, vous allez changer d'idée, vous allez rentrer dans votre satisfaction locale comme une personne changée. Qu'on sache Cheryl au micro depuis longtemps, ensuite on va passer au micro 1 et 3. Et ça va être pas mal tout, là, parce que, oui, il est presque 50. Cheryl Burns, section locale, 1936, Vancouver, en Colombie-Britannique. Dans un premier temps, je tiens à remercier vous toutes de vos histoires fascinantes. Et bien sûr, merci pour les stratégies. J'ai pris des notes et je vais rentrer chez moi et je vais mettre en vigueur vos stratégies. Dans un premier temps, je vais vous parler un peu de la situation des services sociaux en Colombie-Britannique. Margaret, tu m'as vraiment inspiré quand tu as parlé des gains que tu as eus. Si vous ne le savez pas, les femmes en Colombie-Britannique sont en guerre depuis l'élection de Gordon Campbell. Et une des premières choses qu'il a faites, c'est qu'il a légiféré la négociation coordonnée pour les services sociaux. Parfois, c'est très utile et c'est un outil très puissant de stratégie. Mais dans ce cas-ci, c'était plutôt un défi parce qu'il y avait 13 syndicats assis à la seule table. Et même au sein, bien sûr, du syndicalisme, nous avons parfois des buts et des stratégies différents. Malheureusement, la CFP n'était pas parmi les syndicats les plus puissants, ni les syndicats des employés d'hôpitaux non plus. Heureusement, on a créé quand même des alliances avec les autres syndicats. Par conséquent de la guerre contre les femmes du premier ministre Gordon Campbell, parce que les services sociaux sont en majorité féminins, et c'est parfois des femmes de couleur, des femmes immigrantes aussi dans les services sociaux. Alors, Gordon Campbell est en guerre non seulement contre les femmes, mais surtout contre les femmes marginalisées. Alors, les services sociaux, à ce moment-là, venaient d'encaisser un coup après l'autre, coup après coup. Et maintenant, je connais des femmes qui sont obligées d'aller à la banque alimentaire pour chercher de quoi manger, même si elles ont un boulot. Il y a des femmes qui sont de plus en plus blessées au travail parce qu'elles n'ont pas la protection nécessaire. Et on a des problèmes de recrutement et de fidélisation des membres. Donc, les femmes sont obligées de faire des heures de travail très longues. Et les employeurs trouvent des façons d'éviter de payer le surtemps, toutes sortes de choses pour minimiser ces femmes. Alors, merci. Je vois maintenant qu'il est possible d'aller au-delà de 2%, 3% comme augmentation salariale. Merci de cette présentation aussi. J'ai une question rapide pour Sylvie. Ça touche la définition d'équité salariale. Définition connue de nous tous. Parfois, c'est un terme qu'on utilise. Tu as parlé de cette question d'examiner le travail des hommes et le travail des femmes pour comparer la différence des salaires. Alors, j'aimerais que tout le monde soit sur la même longueur d'onde, que tout le monde ait la même définition d'équité salariale. Est-ce que tu pourras nous donner une bonne définition de ce que tu entends par équité salariale?
Alors, on dit à travail équivalent, salaire égal. Ça veut dire qu'effectivement, on compare les emplois masculins et les emplois féminins. Par exemple, au niveau des qualifications. On peut aussi comparer les efforts. C'est sûr que les emplois masculins, d'habitude, il y a plus d'efforts physiques. Mais l'effort mental, ça existe aussi. Puis c'est habituellement dans des emplois féminins. Même chose sur l'autonomie. On peut continuer comme ça. La saleté. Est-ce qu'il faut absolument être noir, là, avoir passé dans le tuyau du poêle pour considérer qu'on est en contact avec la saleté, ou si les caissières, est-ce que c'est sale, ça, de l'argent? C'est sale. Donc, on devrait reconnaître ces éléments-là comme étant une partie de la valeur du travail des femmes. Ça ne veut pas dire de renier ce que les gars font, là. Puis quand je dis les gars, les filles, vous comprenez qu'il y a pas mal d'hommes dans les emplois féminins aussi, là, comme il peut y avoir des femmes dans les emplois masculins. On parle typiquement, là, emplois de bureau, emplois de service sont des emplois féminins, puis le travail plus qui demande une force physique souvent va être masculin. Donc, on compare les deux. Ça prend, donc, comme on appelle ça un plan d'évaluation, là, au SFP Québec, ils ont pas mal d'expertise là-dessus, on nous a beaucoup guidés au travers des années. Et puis là, si l'emploi féminin arrive au même pointage que l'emploi masculin, là, on compare les salaires. Des fois, c'est exactement le même pointage. Des fois, il y a, mettons, 20 points de différence, là. Ça, c'est des méthodes, puis je vous en embarrasserai pas avec ça. Mais là, on le compare. On dresse la courbe des emplois masculins, puis là, on regarde où sont nos féminins. Puis ça, quand je disais tantôt, là, c'est pas une fantaisie de l'esprit, là. C'est un calcul qu'on fait. Il y a différentes méthodes. Mais il a été démontré que dans la société en général, les femmes gagnent 70 % du salaire des hommes. Ça tend à s'améliorer, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire. On a vu des endroits où il y a eu réalisation d'équité salariale, puis les emplois féminins allaient chercher des ajustements très intéressants. Les brigadières scolaires, les personnes qui travaillent comme sauveteuses dans les piscines. Il y a beaucoup d'emplois comme ça, typiquement féminins, qui sont allés chercher un fort redressement salarial dû au fait de la comparaison. Alors, c'est ça le principe d'équité salariale, c'est vraiment emploi équivalent, salaire égal.
Thank you, Sylvie.
Mike One.
Du SCFP 4227. Qui représente les employés de soutien du Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique. Et je suis aussi membre du Comité national pour l'alphabétisation. Alors, je voudrais ajouter un court commentaire à ma consœur Sylvie. Nous passons aussi, nous, à l'heure actuelle, par un processus de réévaluation des emplois. Et on a reçu un excellent soutien du SCFP national. Nous avons des outils très faciles à utiliser. La méthode dont Sylvie parle est facilement assimilable et je vous encourage à communiquer avec votre conseiller ou votre conseillère pour avoir plus de renseignements. Mais l'essence de mon commentaire voulait s'adresser plutôt à Shelley. Shelley, tu as été vraiment très inspirante pour moi et je sens aussi pour l'Assemblée aujourd'hui. Et il y a quelques jours, peut-être une dizaine de jours, je participais à un forum ouvert pour l'alphabétisation organisé par le SCFP qui regroupait des employeurs, des membres du syndicat et des membres des groupes communautaires. Puis tout au long des 3 jours, on a essayé de faire valoir le fait que la formation en milieu de travail avait vraiment un impact dans la vie de quelqu'un. Puis Ça a ressorti tout le long de nos échanges, mais je sais que si tu avais été là, tu nous aurais vraiment inspiré, tout le groupe. Et je voudrais aussi dire que le SCFP croit beaucoup à la formation en milieu de travail. Et il existe des ateliers pour mettre en place des programmes de formation en milieu de travail. Et j'invite tous ceux et celles qui ont été inspirés par ton témoignage de s'adresser à leurs conseillers et de voir comment pourrait être mis en place de tels programmes. On a la chance, dans notre comité national, d'avoir une grande championne de l'alphabétisation et de la formation en milieu de travail. C'est la conseillère en éducation de la Nouvelle-Écosse, Gloria. Et ses consœurs et confrères qui travaillent en éducation syndicale sont tout aussi motivés et ont tout aussi un feu intérieur pour accompagner les personnes dans le développement de leurs compétences et dans la découverte de leur potentiel. Merci infiniment.
Microphone number 3.
Micro 3. Felicia, 4308 à Toronto. Je tiens à remercier Shelley. J'ai eu le privilège d'écouter ton histoire. Et j'écoute ça non seulement comme ton histoire, non seulement comme femme, mais comme survivante. À titre de délégué syndical, je vais rentrer chez moi à Toronto avec une tâche énorme. pour faire en sorte que les femmes membres du SFP ne seront pas négligées par l'employeur parce qu'elles sont victimes d'abus à la maison. Je vais travailler avec le syndicat et l'employeur pour faire en sorte que les femmes fortes comme Shelley ne soient pas congédiées, que ces femmes-là puissent réaliser leur rêve par l'entremise des efforts de CFP. Parce que là, tu parles de l'équité salariale et l'équité pour les femmes. Merci beaucoup, Shelley. Et une dernière intervention, micro numéro 2. Ne quittez pas la salle, parce qu'il y a des annonces administratives et une autre présentation. Micro numéro 2, merci. Tammy Longren, section locale 2348 de Winnipeg. Je vais vous parler de la violence au milieu du travail. Je suis conseiller aux personnes qui ont une dépendance et j'ai une anecdote personnelle pour vous raconter au sujet de la violence au travail. À l'heure actuelle, je suis en congé parce qu'un client m'a attaqué. S'en est pris à moi. J'ai deux boulots. Je travaille au centre de désintoxication. Les clients séjournent là-bas 10 jours avant de rentrer à notre centre. J'ai eu un client qui était au centre de désintoxication et je le transportais au centre de counseling pour une résidence de 3 mois. C'était quelqu'un que j'ai aidé dans le cadre de notre programme d'intoxication. Il était emprisonné après avoir commis un crime dans un état d'intoxication. Donc, il était admissible à notre programme de désintoxication et de counseling. Je croyais connaître ce bonhomme. Et quand on montait l'escalier, j'ai aussi insisté sur la présence des caméras, des vidéocaméras, parce qu'il y a beaucoup de violence dans ce milieu, dans cet endroit, dans ces escaliers. Je fais partie aussi du comité de santé et de sécurité au travail. Et là, il m'a mis un couteau à la gorge. 18 mois avant cet incident, j'ai survécu, mais j'ai demandé la présence des caméras. Et on a refusé des caméras dans les escaliers et on a mis fin même à ces réunions avec mon employeur. Donc, pas de caméra dans les escaliers. Me voilà. Personne ne voit rien. Je devais descendre deux étages avec ce bonhomme pour le faire monter. Il était content d'être dans le programme de counseling et de désintoxication. Il m'a pris de derrière pour m'embrasser. J'ai résisté. Nous avons le code vestimentaire et j'ai bien sûr les talons hauts et bien sûr chandail, jupe longue, etc. Bon. Et je monte l'escalier et il est derrière moi. Il m'a violé. Il m'a violé dans l'escalier. Dans l'escalier. Il y a 12 mois de ça. Je suis toujours en congé et il n'y a encore pas de caméra dans l'escalier. Et on l'a fait revenir encore. C'est l'armée du salut. Et il a fait la même chose avec une autre femme, une deuxième fois. Et elle est enceinte. Ensuite, on l'a laissé revenir une troisième fois. Il est toujours en liberté dans les rues de Winnipeg. Alors, le processus juridique n'est pas terminé. Je tiens à remercier tout le monde parce que, n'eût été de CFP, je pense que je serais morte aujourd'hui. Parce que le CFP a sauvé ma vie. Le CFP m'a sauvé la vie. Ils m'ont donné 2 postes au syndicat, secrétaire archiviste et président des activités sociales. Donc, je suis très occupé avec mes affaires syndicales. Ça m'occupe et je suis contente de ces gestes. Alors, merci. Je vous aime tous et toutes.
Thank you.
Alors, merci Consoeur pour nous avoir raconté cette histoire qui est très difficile pour vous raconter. Non à la violence au travail.